With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est le rendez-vous jeu numéro 200. On va vous parler de la Gamescom, de 12 Minutes, de Ghost of Tsushima, Director's Cut et de plein d'autres choses. C'est parti! Bonjour à tous, c'est le rendez-vous jeu. On est là pour vous résumer l'actu du jeu vidéo de la semaine. On va faire de notre mieux pour le rendre sympathique, complet. On va décortiquer tout ce qui s'est passé et l'analyser, évidemment. Je suis Patrick Béja et c'est l'épisode 200. Je dois dire, avant même de se lancer, que j'espérais faire un truc spécial pour l'épisode 200, parce que c'est quand même un moment particulier, mais... je me suis rendu compte que j'avais deux enfants et très peu de temps, donc on fera un truc pour l'épisode 300, on va dire ça comme ça. Mais il n'empêche qu'on va avoir un bel épisode dans l'after show avec les Patriotes. On parlera peut-être du matos qu'on aime bien sur PC. J'ai reçu une nouvelle chaise que vous pouvez voir si vous nous suivez en live sur Twitch là à midi tous les jeudis, que vous voyez à peine en fait, mais je vous en parlerai. Je parlerai aussi du matos que j'aime bien, mon PC et puis peut-être console, avec les Patriotes. Et... pour le moment, on va donc parler de toute l'actu avec deux invités EES de marque et de talent. D'une part, Trinity, qui nous revient, de ses vacances, parce que t'as streamé dans la nature pendant des jours et des jours, mais en fait, tu bossais quand même, hein. C'était boulot non-stop.
Oui, c'était boulot non-stop, c'était l'été. Moi, tu sais, j'aime bien partir en décalé. Donc, j'attends septembre, voilà. Donc, mais j'ai quand même passé un très bon été, hein. Ça va, je n'ai pas non plus... j'ai pas cravaché à mort, mais c'était très cool. Très cool, il n'a pas fait trop chaud, donc moi, ça me va.
Je suis très admiratif de ta capacité à streamer en toutes circonstances et à en faire un moment sympathique. C'était des balades dans la nature, des visites, enfin, c'était incroyable. Donc,
c'est très gentil, sympa. Je te remercie. Merci.
Et on a également, pour la première fois dans l'émission, Pauline Leclerc, alias Tyraxa, qui nous vient de jeuxvideo.com. Comment ça va, Pauline ?
Ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour un chiffre rond en plus.
Ouais, c'est un événement, tu vois. Il ne faut que... les personnes qui participent aux épisodes 200 de tous mes podcasts, c'est que des personnes d'une extrême qualité. Donc, évidemment, je ne pouvais que te proposer de venir.
Félicitations, hein, 200 épisodes, ça fait combien d'années, tiens ?
Écoute, j'ai lancé, parce qu'on a changé au début, on était en bimensuel, et depuis quelques années, on est en hebdo. Et donc, je me suis lancé en 2014. Mais tu vois, ça s'est rien en 2014. En fait, le rendez-vous jeu tech... qui est mon autre podcast principal, c'était 2009. Et avant ça, je faisais un podcast en 2006. Donc, le podcast, tu vois, je suis... On m'appelle...
Tu es rodé.
Voilà, on va dire que je suis rodé. Merci. C'est dit avec beaucoup de considération.
Donc, non, mais félicitations. Hein, autant d'années, je tiens quand même à le dire. C'est un milieu qui n'est pas forcément... c'est un milieu qui est concurrentiel, qui n'est pas forcément facile. Tous les milieux du podcast, du streaming, etc. Donc, d'être là et de continuer vaillamment, félicitations.
Ouais, justement, j'en parlais dans un édito que j'ai fait pour les auditeurs qui soutiennent l'émission il y a quelques jours. Et le fait de constamment réfléchir à la manière dont on fait les choses, à améliorer les processus de production, mais aussi ce qu'on fait avec les émissions, c'est hyper important. Et je réécoutais l'épisode 1 à la suggestion d'un auditeur et il y a quelques jours, et je me rendais compte à quel point les choses ont changé. Et comme moi, j'ai changé. Tu sais, l'épisode 1, c'était genre... Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous jeu. Nous allons parler de jeux vidéo. Ça va être fort agréable. Et c'était terrible. Et déjà, j'avais des années de podcast derrière moi, donc je suis peut-être plus à l'aise aujourd'hui. Mais tu vois, le fait d'ajouter le streaming sur Twitch, de faire les choses un petit peu différemment, d'avoir plein d'invités différents, ça dynamise le tout et ça fait qu'on peut continuer. Et j'aime ça, c'est surtout ça.
Complètement. Longue vie au rendez-vous jeu.
Merci, merci. On va donc vous parler, comme je disais, de la Gamescom, mais aussi de 12 Minutes que Pauline a testé pour jeuxvideo.com et auquel Trinity a joué aussi. J'y ai joué un petit peu également. On parlera de Ghost of Tsushima Director's Cut et de toute l'actu. Mais avant ça, je voudrais remercier Florent Torresani, Juju Blanc, Jérémy Kassianov, JB Deluxe, Guillaume Boucherie et en plus de ça, Stéphane Grégory Sata, qui est mon Stéphane favori de tous les Stéphanes du monde, puisqu'il est le producteur de cet épisode. Et tous ces noms-là sont les personnes qui soutiennent l'émission et que je remercie du plus profond de mon cœur. Si vous voulez les rejoindre et rejoindre cette formidable communauté, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Vous le savez, j'ai failli dire toi-même, tu sais. Je me suis dit, non, là, Patrick, tu vas trop loin. Donc, je vais me contenter de dire, vous le savez. Bon, parlons un petit peu de la Gamescom. Et on va commencer avec un événement qui n'a pas fait, on va dire, l'unanimité dans les gens qui regardaient. On a suivi ça sur le Discord de la communauté des émissions. Et c'était le Xbox stream de la Gamescom, sur lequel, du coup, on ne va pas passer énormément de temps. On va dire qu'on va passer moins de temps qu'eux n'ont passé sur les trébuchets, même si pour moi, c'était une excellente partie du stream. Il y avait des trucs intéressants quand même. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé de ce que moi, j'ai retenu. Et puis, on peut en parler juste après. D'abord, une annonce qui était importante pour moi, c'est l'arrivée du streaming dans le Xbox Game Pass Ultimate sur console pour les vacances. Donc, ce n'est pas encore tout de suite. Mais le streaming, à mon sens, surtout dans le cadre du Game Pass, est une fonctionnalité hyper intéressante parce qu'il y a tellement de jeux qu'on veut tester. Rien que le fait de les installer et puis de les lancer, etc., c'est un peu pénible quand il y en a une bonne quantité. Et là, le fait de pouvoir les tester en streaming et puis les installer ensuite si on veut y jouer plus longuement, c'est un truc hyper important. Ça arrive sur les consoles Xbox ces vacances, y compris sur Xbox One, ce qui fait que sur Xbox One, vous pourrez jouer à des jeux, alors en streaming bien sûr, mais à des jeux en qualité Xbox Series X. Donc c'est assez intéressant comme annonce. On a aussi eu une annonce à propos de Xbox Game Pass sur les jeux Humble Bundle, et il y en a une grosse quantité qui va arriver dans le Game Pass en Day One. Je vous parlais de Dodgeball Academia, qui est assez sympa, qui est déjà disponible, mais il y en a je ne sais pas, une dizaine qui va arriver quand ils seront disponibles entre la fin de l'année et début 2022 même. Et c'est, en fait, Humble Bundle, ils ont été rachetés, hein, donc ce n'est plus une petite société, enfin une petite assoc qui fait des trucs pour la charité, même s'ils le font encore un peu, ils ont été rachetés par un evil corporate overlord. Mais il n'empêche, ils sont un petit peu dans la mouvance de Devolver, et ils font des petits jeux comme ça, indépendants, publiés par eux, qui ont l'air en tout cas intéressants. Donc ça, c'était une autre annonce intéressante. Et puis, on n'a pas eu de Halo, pardon, directement dans le Xbox Showcase, ce qui était un peu bizarre, mais on a quand même appris, par rumeur, et puis ça a été confirmé après, la date de sortie de Halo, le 8 décembre, donc ils poussent vraiment la limite de l'année pour dire qu'ils sont sortis cette année. Par contre, il n'y aura pas de mode coop, ni de mode forge au lancement, donc on sent qu'ils sont vraiment en train de pousser autant qu'ils peuvent pour le finir à temps, mais ça a l'air compliqué. Et puis, deux autres petites choses, le jeu qui m'a paru intéressant ou intriguant en tout cas dans toutes ces annonces, c'était Into the Pit. Into the Pit, c'est une sorte de Quake, on va dire, mais avec un lanceur de sorts, et on lance des sorts avec les mains. Si vous n'en avez pas entendu parler, eh ben, vous pouvez aller voir le trailer, ça a l'air... Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça a l'air intriguant, très coloré, avec des sortilèges. Bon, ça prend la place des armes, mais ça a l'air marrant. Et comme je le disais, les trébuchets, c'est devenu une sorte de blague, parce que ça fait partie de... Je suis complètement... Je suis complètement à l'ouest sur le jeu. Je ne veux pas dire une bêtise. C'est Age of Empires, non ? C'est Age of Empires 4. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ça. Ah. Oh là là, j'ai transpiré.
Là, en plus, je ne pouvais pas t'aider. Quoi. Moi, je rigole, mais je t'ai laissé dans la mouille. Quoi, tu vois.
C'est bien ça. C'est Age of Empires 4 qui sort en octobre, fin octobre. Et ils ont des petites vidéos historiques, en fait. Et ils ont montré une de ces vidéos qui dure 4-5 minutes sur les trébuchets. Donc, ça a fait rigoler tout le monde. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Je voudrais juste voir les vidéos, en fait. La fabrication, la manière dont ça marche, la manière dont c'est efficace, etc. Bref, elles seront incluses dans le jeu. Et d'une manière générale, cette présentation, c'était vraiment Play It Day One. Vous savez, d'habitude, dans les présentations de ce type, on a World Premiere, qui est le truc qui revient tout le temps. Là, c'était Play It Day One. Donc, c'était vraiment le Game Pass à fond, à fond, à fond. Tous les jeux présentés seront dispo Day One quasiment sur Game Pass. Bon, là, j'ai l'air excité. En vrai, la présentation, c'est 1h30, ou 1h même, mais qui en a paru 4. C'était un petit peu soporifique. C'était surprenant parce que les présentations de l'E3 étaient hyper dynamiques. Et là, ils nous ont fait des discussions avec les devs à chaque fois qu'ils présentaient un jeu. Et le problème de ça, c'est que si t'es pas spécifiquement intéressé par ce jeu, eh ben, 5 minutes de discussion avec les devs, c'est quand même bien pénible. Et du coup, il y a beaucoup de gens, les gens qui étaient intéressés par tel jeu étaient contents. Mais si t'es pas intéressé par tous les jeux qu'ils présentent, ça devient un petit peu long sur la longueur du truc. Donc voilà pour la présentation de la présentation. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues dans ce showcase Xbox plus que d'autres ? Du coup, je vais donner la parole à Pauline qui nous rejoint pour la première fois. Il y a des choses qui t'ont plu dans tout ça ?
Alors, je fais partie de la majorité de gens, je pense, qui ont trouvé ça relativement assez chiant. Après, j'ai appris ce qu'était un trébuchet. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était effectivement très intéressant, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Après, moi, je suis abonnée au Game Pass, donc j'étais très contente de l'annonce des 10 jeux Humble Games, notamment Unpacking, là, le jeu très satisfaisant où tu ranges tes affaires dans toutes les pièces. Oh là là, j'avais raté la démo pendant le festival Steam. Ça, c'est très cool. Il y a d'autres point and click. Moi, c'est ma cam, les point and click. Il y a un truc, c'est Chinatown Detective Agency, un point and click à Singapour dans les années 80, façon Carmen Sandiego, mon icône d'enfance. Donc pour ça, je suis très contente. Et le reste, c'est un peu oublié dans ma mémoire déjà.
Ouais, j'insiste pas trop. C'est vrai, juste pour mettre un petit cœur avec les doigts sur Unpacking, dont j'ai adoré la démo aussi.
Oui.
Mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble, voilà, on est d'accord. Trinity, toi, il y a des choses qui t'ont marqué là-dedans ?
Non, honnêtement, je vais pas parler juste pour parler. C'est tout pareil.
Ouais. Voilà. Donc on évacue la présentation Xbox, on est tous d'accord. Et j'ai fait dans la vidéo sur le stream toute la présentation sur la vidéo de du trébuchet qui était passionnante. J'ai même pas mentionné les 8 minutes de Forza Horizon 5 qui était une voiture qui roule dans le Mexique. C'était cool, mais c'était
beau,
encore une fois. Ah, c'est beau, ça c'est sûr. Ouais. Mais moi j'ai joué à Forza Horizon 4 un petit peu ces dernières semaines. Comme ça, vu comme ça, en vidéo compressée, c'est beau, mais c'est pas non plus... Ça change pas le jeu, quoi. C'est le même jeu dans un endroit différent, plus beau. Bon, on va dire que je suis un petit peu critique. Peut-être que je suis un petit peu taquin. C'est la même chose en plus beau. Oui, bon, Patrick, tu exagères. Donc, parlons plutôt de choses beaucoup plus enthousiasmantes avec le Opening Night Live de Jeff Keighley. Le Opening Night Live où, là, pour le coup, il y a eu quand même pas mal de présentations un petit peu plus intéressantes, pas mal de jeux. Et là encore, je vais résumer ça. Il y a eu les choses que j'ai retenues, mais vous pourrez m'en dire plus s'il y a d'autres choses que je n'ai pas notées. Saints Row qui a une sorte de reboot qui sera disponible le 22, qui a l'air un petit peu moins loufoque et un petit peu toujours aussi coloré, mais un petit peu moins loufoque que ne l'étaient les Saints Row précédents. Et Saints Row, c'est une sorte de GTA, hein, pour le dire rapidement. Un jeu Marvel qui forcément m'a parlé dans le Discord quand on discutait des trucs. Il y a le jeu Marvel qui a commencé à arriver et tout le monde dans le Discord a dit « ça y est, Patrick en PLS, un jeu Marvel ». Et effectivement, sauf que c'est un XCOM, c'est Firaxis qui le développe et c'est un XCOM avec les personnages de Marvel. Ça s'appelle Marvel Midnight Suns. Et moi, je ne suis pas très XCOM, mais ceci dit, s'ils réussissent à en faire quelque chose de plus, de plus simple d'approche que les XCOM, peut-être un petit peu plus arcade, peut-être un petit peu plus facile à prendre en main, je pourrais tout à fait être intéressé. En plus, il y a plein de personnages obscurs que personne ne connaît et que moi, j'adore dans l'univers Marvel. Genre, il y a Magic qui est dans le truc, qui est une nana qui fait de la magie et qui est hyper... qui est genre méchante, mais qui essaye d'être gentille, ou qui est très gentille, mais sa solution, c'est toujours, on n'a qu'à tous les tuer. Et les autres lui répondent, non mais attends, on est des gentils, je te rappelle. Ah oui, ok, bon, d'accord. Bref, on s'en fout, c'est Magic, et c'est Marvel Midnight Suns. On aura un gameplay reveal dans une semaine, le 1er septembre, et ça sort en 2022 sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Donc, il faudra voir comment ça tourne. On a également du gameplay pour Call of Duty Vanguard, on en reparlera peut-être un peu plus tard. La confirmation de la date de sortie de Halo, avec une Xbox spéciale édition qui est super, super belle. Elle brille et tout. C'est une Xbox version shiny, en fait. Moi, j'ai une bête Xbox toute noire, série X, et il y a une version shiny que j'ai pas eu en ouvrant mon paquet de Xbox, et du coup je suis un petit peu déçu, mais elle sera disponible avec la sortie de Halo. Il y a eu des trucs un petit peu bizarres, genre Cult of the Lamb, c'est un jeu où on joue un agneau sacrificiel en quelque sorte, qui se révolte et qui a des pouvoirs occultes et qui fait une sorte de secte et de culte, et qui a une sorte de partie jeu de gestion et en même temps jeu d'action indé. Ça a l'air assez marrant, c'est édité par Devolver. Midnight Fight Express, qui ressemble un petit peu à Sifu, qui est fait par une personne, édité par Humble Games, donc il sera dans le Game Pass. Il arrive en été 2022 et non pas 20222 comme je l'ai écrit dans les notes. Et ça a l'air assez intéressant aussi, on pourra en reparler peut-être. D'autres choses, Dokken V, une sorte, j'ai pas bien compris si c'était une sorte de Pokémon ou Monster Hunter, je crois que c'est plutôt un peu Pokémon, en open world, et il y avait une sorte de morceaux de musique en K-pop hyper dynamique. Tout le monde a adoré ce truc, je crois. Ça s'appelle Dokken V. L'annonce de la date de sortie de Horizon Forbidden West, qui arrivera le 20 février, si je ne m'abuse, 2020. Donc, ils ont raté la fenêtre de sortie de cette année. J'ai dit 2020, évidemment, c'est 2021. Ils ont raté la date de sortie de cette année, mais ils ne sont pas très, très loin. Donc, encore, on peut se dire, j'achète une PS5 et j'y jouerai bientôt après la fin de l'année. En même temps, on n'a pas besoin de ses motivations pour acheter des PS5, ils les vendent toutes, donc ils s'en foutent. C'est sans doute un peu pour ça qu'ils se permettent de décaler la sortie également. Marvel Future Revolution, qui est un jeu mobile, encore du Marvel, vous allez me dire, eh bien oui, j'y peux rien, hein, c'est l'actualité. Un jeu mobile qui est un jeu d'action auquel j'ai joué un tout petit peu, il est sorti il y a 2 jours, et franchement, c'est assez surprenant, surtout au niveau graphique. On est dans une qualité graphique qu'on nous promettait sur mobile depuis longtemps, et maintenant j'imagine que la moyenne des performance de mobile est suffisamment élevée pour qu'ils puissent se permettre de faire ce genre de choses, et on a une qualité graphique qui est comparable à de la PS4, je dirais. C'est assez incroyable. Tales of Arise, dont la démo est disponible, ils en ont passé une petite couche, mais surtout ils ont annoncé Tales of Luminaria, un jeu mobile, et là encore, ça pourrait être un jeu intéressant pour les fans de jeux traditionnels console PC. Tales of sur mobile, qui arrivera l'année prochaine, je crois. Non, ils ont dit qu'il est en développement, donc ils n'ont pas donné de date. Un truc que présentait Deadmau5, c'est Core, qui est une plateforme de conception de jeux sur l'Epic Game Store, où il y a déjà plein de jeux disponibles. Il faudra que j'investigue un petit peu plus la chose, ce qu'est Core, parce qu'il y avait des jeux qui avaient l'air plutôt cool. Et donc, c'est une sorte de plateforme de développement facile d'accès. On a eu d'ailleurs des histoires sur Roblox, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, et quelque chose d'assez scandaleux qui se passe avec Roblox, qui est aussi une plateforme de développement où les enfants peuvent développer et vendre des jeux, ils se font arnaquer, en gros. Mais là, ça a l'air, c'est peut-être un peu différent. Il faudra investiguer ça un petit peu plus. Et puis, bon, plein d'autres petites choses. Une date pour Sifu, le 22 février 2022, comme Destiny de Witch Queen. 2022, ça va être complètement fou comme année, hein, je vous préviens. Des chiffres sur Valheim. C'est marrant, Valheim, parce qu'il est sorti. Moi, je l'ai essayé, je ne l'ai pas adoré. Et il donne les chiffres. 7 millions de joueurs, 500 000 joueurs concurrents sur Steam au plus haut. C'est marrant comme les chiffres peuvent aider à refaire naître de l'intérêt, parce que j'y ai joué, hein, je l'ai acheté, je l'ai installé, j'y ai joué, j'ai pas adoré. En voyant ces chiffres, je me dis, ah mais peut-être qu'il y a un truc en fait, faudrait peut-être que je reteste. C'est la force du marketing, donc c'est une update qui a été présentée, qui s'appelle Hearth and Home. Et enfin, un petit passage sur Death Stranding, la Death Stranding Director's Cut, qui sortira le 24 septembre. Bon, ça avait l'air très, très, très fourni, mais je ne vais pas trop en parler parce que c'est Death Stranding et tout le monde connaît. Et voilà, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, pas de Elden Ring. Et ça, je sais que ça a provoqué des cris de douleur dans le Discord. Et donc voilà, bon, ça fait beaucoup là encore. Bah, du coup,
beaucoup
je vais donner
d'infos,
la parole
ouais.
à Trinity d'abord. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, même si j'en ai pas parlé hein?
Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Bah, il aurait fallu que je regarde l'opening night live pour en retenir quelque chose.
Ça ne voilà. t'a pas parlé.
En fait, non, c'est juste que hier, j'ai pas eu le time en fait de regarder l'opening night. Alors dans tout ce que tu m'as énoncé là, si c'était bien là, parce qu'il y a eu beaucoup d'infos, l'histoire du mouton sacrificiel là,
oui,
du petit
oui,
agneau.
Oui, tout à fait. Oui.
écoute, ça a interpellé, ça a piqué ma curiosité.
Cult of the Lamb. Alors attends, je vais retrouver.
Ouais, j'aime bien ce genre de jeu un petit peu décalé, tu vois, un peu dark, etc. Mais après, c'est vrai que bon. Je vais pas te mentir, il y a pas grand chose des choses que j'attends le plus en fait pour 2021 et 2022 dans tout ce que tu viens de citer. C'est quand même bon, c'est triste, hein. Je suis pas très très ouverte en ce moment niveau gaming, mais il y a rien là où je me dis oh génial, des infos sur ce jeu quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est que c'était la conclusion de beaucoup de gens sur cet opening night live, c'était cool à regarder. Ouais. Mais on n'en retient pas énormément de choses au final. Si on demande ouais. Qu'est-ce que t'as. Bon, évidemment, il y a Marvel, hein, future révolution. Mais. Quand même, celui qui.
C'est souvent un peu le problème avec la Gamescom, j'ai remarqué depuis ces dernières années. Je ne sais pas si c'est moi, tu sais, mais vu que d'habitude, il y a toujours eu les grosses annonces à la base à l'E3, on se retrouvait à la Gamescom avec un peu des miettes de pain, quoi. Tu vois, on te balance quelques trucs, mais moi, je n'avais pas l'impression que la Gamescom, à chaque fois, c'était un truc de dingue.
C'est le problème.
Les infos, quoi.
C'est le problème de la Gamescom, qui est un moment de l'année où on peut parler des jeux qui vont sortir à la rentrée et à la période des vacances, mais on n'annonce plus vraiment de grosses choses dont on n'a pas déjà parlé, en fait, pour des questions de planning marketing. Et ça a toujours été le cas. Et là, c'est d'autant plus important d'avoir fait cet événement que la Gamescom, elle n'a pas lieu. Donc, elle a lieu virtuellement.
Oui, en plus.
Mais ils ont pas mal fait le truc quand même. Ils ont un petit peu occupé l'espace. Un petit peu, parce qu'effectivement, on n'en retient pas grand-chose. À part peut-être ces petits ovnis, Cult of the Lamb, que tu évoquais. Oui, c'est vraiment bizarre avec des graphismes. Enfin, on a un mouton démoniaque, forcément, ça va parler à des gens. Et puis, on a ce jeu, comment ça se lit ? DokeV, qui est un open world Pokémon / Splatoon, comme le décrit Polygon. Et le clip était incroyable. On va voir si je peux... Non, je ne vais pas mettre la musique parce que je vais me faire bloquer. On ne sait jamais avec ce genre de truc. Mais ouais, c'est en plus des graphismes. C'est très, très beau. C'est des graphismes hyper colorés. On se bat avec des... Comment ça s'appelle ? C'est des jouets, en fait. Et vous savez, il y a les marteaux qui font pouette. Vous savez ce que... Vous savez, les jouets, genre les petits marteaux en plastique, fait pouette, pouette. Voilà. Et c'est ce genre d'armes qu'on a dans le truc. Mais en même temps, c'est super beau. Le marteau qui fait pouette. Si je voulais
c'est
pas...
C'est très beau, hein.
N'est-ce pas ?
Ah ouais, c'est vraiment propre.
Ah ouais, c'est super beau. Ouais,
ouais. Je
m'attendais pas à ça. Hein.
Et voilà. Donc c'est. Attendez, je vais quand même vous en mettre une petite dose. Hop. Stop. Voilà, comme ça. Et c'était cette ambiance, et tout le monde s'est mis à danser sur la vidéo pendant les 5 minutes du clip. Bref.
Oh, il y a un lama.
Mais oui, un alpaca.
Un alpaga.
Un alpaca magnifique. Et du coup, bon, Pauline, à part l'alpaca qui t'a parlé visiblement, qu'est-ce que tu as retenu de cette opening night live ?
Mais non, mais je vais pas être originale parce que c'était pile mes deux annonces préférées. C'est un jeu que j'attendais pas du tout, surtout que je suis pas très Pokémon de base. Mais alors ça, je l'attendais pas, mais c'est super propre. Par contre, la K-pop la K-pop pendant des heures. Je ne sais pas si je supporterai, si ça tourne vraiment tout le temps dans le jeu.
Oh, j'en doute, ça c'était le clip.
Oui. Et l'agneau dans un culte, ça c'est assez incroyable aussi. Et j'ai eu la date de sortie de Jet The Far Shore qui avait déjà été annoncée avant, hein, mais je ne sais pas si vous voyez ce que c'est à
oui,
peu
oui,
près.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je ne l'ai pas retenu, mais tu peux nous en parler hein, si c'est un truc qui t'a parlé. Tu peux rappeler de quoi il s'agit ?
Alors, c'est un peu dans la veine d'un Sable ou d'un Journey. C'est très axé exploration avec une DA très, très particulière qui m'a beaucoup plu. Et contrairement à Sable, là, on a vraiment un objectif fixé qui, sans violence, en gros, est de... ramener la paix entre un groupe d'autochtones, si j'ai bien compris. Et donc, ça sort en octobre et ça a l'air très relaxant.
Ouais. C'est les Super Brothers et un autre, oui. Une autre boîte qui ont fait ça. C'est ceux qui avaient créé Sword and Sorcery, qui avaient fait pas mal de bruit sur mobile. C'était il y a plusieurs années déjà, qui était très beau. Mais là, ça a l'air d'être effectivement assez original et très beau aussi et relaxant. Ouais. Jet the Far Shore. Oui, et donc, on n'a pas dit la date de sortie. C'était
quelque part en octobre.
D'accord. Le 5 octobre, c'est ça.
Allez,
exactement.
Voilà.
Et ça arrive sur PlayStation 4 et 5, bien sûr, et PC. Jet the Far Shore. Écoutez, je crois qu'effectivement, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait retenir de cette présentation. Je ne vais pas vous faire des tonnes sur Marvel. On parlera peut-être un petit peu plus tard d'autres choses. Il y avait des toutes petites choses. Hein. Ils ont parlé de Jurassic World Evolution. Il y avait Lego Star Wars, la saga Skywalker qui arrivera l'année prochaine au printemps. Il y a Genshin Impact qui va avoir une cross-promo avec Aloy de Horizon. Ça a fait plaisir à certains. Etc., etc. Je vais juste mentionner un truc, c'est Soundfall, qui est un hack and slash en musique, un hack and slash musical, qui avait l'air assez intéressant, assez original, et je le mets en parallèle d'un truc que j'ai découvert par Johan, un membre de la communauté, qui avait tweeté un truc, et alors il faut que je le retrouve, c'était... Un jeu, Sword of Symphony, qui est un jeu fait par un développeur, qui est un truc génial, où on fait de la musique en donnant les coups, en fait. Et ça, ce que vous entendez maintenant, si vous l'entendez toujours, c'est quand on est en train de jouer au jeu et de se battre et de faire des combos. Ça fait ce genre de musique. Et alors, c'est vraiment un truc qui est fait par un étudiant. C'était un projet de fin d'études qui a été soutenu sur Kickstarter. Donc, c'est vraiment un truc qui est pas du tout au niveau de ce dont on a l'habitude. C'est même pas un jeu indé, c'est encore un projet. Donc, il est en train de le développer. Mais ce genre de jeu ont l'air assez intéressant, je trouve. Et donc, entre Soundfall et... j'ai déjà oublié le nom, Sword of Symphony, on pourrait avoir des trucs intéressants dans la catégorie des jeux genre musicaux. Écoutez, ça va être tout donc pour la Gamescom. Encore une fois, on pourrait passer des heures sur chaque annonce, mais on va avancer et je vais surtout vous dire que je vous aime tous. Je vous aime tous, vous le savez. Vous qui écoutez l'émission en ce moment, je vous aime. Mais il y en a quand même que j'aime plus que d'autres. Ceux que j'aime plus que d'autres, c'est ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvjeux. C'est improvisé
à chaque fois. Je sentais la connerie arriver.
Ouais, exactement. Donc, il y en a que j'aime plus que d'autres, c'est ceux qui soutiennent l'émission parce qu'ils me permettent de vivre, ils me permettent de faire ce métier qui est devenu un métier. Vous savez, c'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années et les créateurs de contenu sur Internet ont inventé ce genre de métier juste ces dernières années. D'ailleurs, je pouvais vous raconter des histoires intéressantes avec le fisc qui essayait de comprendre ce que je faisais, c'était rigolo. Et c'est grâce à vous que ce métier existe. Et sans votre soutien, tout simplement, je ne pourrais pas le faire. Donc, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien mes émissions, je vous encourage à au moins considérer l'idée de rejoindre les Patriotes et d'aller sur le site patreon.com/rdvjeux. Vous n'avez pas forcément besoin de vous abonner, mais... je vous demanderai d'aller voir de quoi il s'agit. patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission. Et vous avez plein de bonus qui sont disponibles dans les niveaux de soutien différents. Et tout le monde a droit, par exemple, au flux privé avec les timecodes, sans les pubs, pour les émissions, avec les contenus bonus, les éditos, où je vais passer derrière le micro pour vous raconter comment ça se passe en production ou dans ma vie. Vous avez aussi accès au Discord, si vous êtes au niveau 2, au Discord privé, où on parle de plein de choses. On est un groupe super sympa et bienveillant d'auditeurs qui se retrouvent régulièrement pour parler des events, ce genre de choses. Bref, allez voir sur patreon.com/rdvjeux. J'espère que vous serez convaincus que ça vaut le coup, bien sûr, pour me soutenir et aussi pour les petits bonus. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites « Ah, Patrick, faut que j'aille voir patreon.com/rdvjeux. »
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on passe à nos jeux du moment, et on va commencer par ce qui est peut-être de manière un petit peu surprenante, le jeu qui a fait le plus de bruit cette semaine, parce que c'est un jeu qui est un jeu indépendant, mais qui bénéficie d'une certaine aura, non sans cause, sans raison, en partie parce que c'est un style particulier et il y a des acteurs de renom qui jouent les personnages. Je parle évidemment de 12 minutes, 12 minutes. Est-ce que tu veux le décrire, Pauline, ou est-ce que je le fais? C'est difficile à expliquer quand même ce que c'est.
Je peux essayer si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, 12 Minutes, c'est un jeu c'est une exclusivité Microsoft déjà, qui est édité par Annapurna, qui est un éditeur d'indé très apprécié, qui a sorti par exemple Outer Wilds, et ça a créé pas mal d'attentes depuis 2016, notamment parce qu'il a un casting 5 étoiles, avec Daisy Ridley, Willem Dafoe et James McAvoy, et ça repose sur un concept très intéressant qui est une boucle temporelle. Alors comment ça commence? C'est un mec qui va rentrer chez lui et en fait on n'a pas les prénoms des personnages. On va avoir 3 personnages. Le mec rentre chez lui, il est invité à dîner avec sa femme et en 12 minutes donc il y a un présumé policier qui rentre dans la pièce, qui fait irruption, qui accuse la femme de meurtre, du meurtre de son père et qui va étrangler le mari. Puis, la scène va se répéter comme ça à l'infini parce que votre personnage va toujours finir par mourir ou alors, si vous essayez de quitter la pièce, la boucle recommence et ainsi de suite. Ça, c'est le concept.
Ouais. Et du coup, tu l'as dit, je crois, mais vraiment la vue de dessus, c'est vraiment, genre, on est dans une pièce quasiment, il y a 2 autres pièces à côté, mais on est dans une pièce et la vue change complètement la perception du jeu parce qu'on voit tout dessus, caméra complètement immobile et tout ce qui se passe dans cette vue. Donc, je ne sais pas, ça donne une impression particulière. Je pourrais dire ce que j'ai pensé du début, mais je vais te poser la question à toi parce que, en fait, le jeu lui-même est aussi bizarre que son concept, quoi. C'est un truc vraiment particulier.
Ouais, c'est aussi cool que risqué. Alors, moi, la vue du dessus, j'ai adoré. Hein. J'ai trouvé ça à la fois très joli et très pratique pour naviguer dans un temps chronométré. C'est vraiment très cool. D'ailleurs, le développeur avait dit que c'était plus pratique pour lui pour éviter les animations faciales, tout ça, parce que c'est son premier jeu, en fait. C'est le premier jeu qu'il programme.
Ouais.
Et côté mécanique, donc, on va avoir quelques éléments, un couteau, des tasses avec lesquelles on va pouvoir interagir et chercher des schémas, des solutions qui vont satisfaire un petit peu la logique du jeu pour essayer de dévier la boucle temporelle. On va essayer de faire parler la femme, d'éviter de se faire étrangler. Et,
C'est... Ouais. Éviter de se faire étrangler, c'est toujours une bonne attitude.
Une bonne solution. Ouais. Et généralement, en fait, c'est là où va arriver le problème, c'est que il y a soit une catégorie de joueurs avec qui j'ai parlé qui ont vraiment roulé sur le jeu, qui ont suivi toute la logique du jeu, qui ont trouvé les bons schémas quand il fallait, et il y en a d'autres dont j'ai fait partie parfois, qui ont testé plein de possibilités qui fonctionnaient pas et qui se retrouvaient à être frustrés par une boucle qui durait de longues heures avec la femme qui vient vous faire un câlin toutes les 5 minutes et que vous êtes obligé de repousser pour retenter, par exemple, de mettre la tasse sur la table, d'essayer plein de choses dont le jeu n'a pas pensé. Et en fait, si vous ne suivez pas la logique du jeu, ça peut créer, dans certains cas, quelques frustrations. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire ?
Ouais, non, mais tout à fait. C'est un peu bizarre à expliquer, tu as raison, parce qu'en fait, le déroulement du jeu, c'est un petit peu un puzzle. Et il faut trouver les bonnes pièces qui s'assemblent de la bonne manière au bon moment pour pouvoir avancer à l'étape suivante. Et le problème, c'est que si on n'y arrive pas, le puzzle s'arrête parce qu'il y a les 12 minutes ou l'irruption du prétendu policier ou du policier dans la pièce. Et du coup, on vient au début. Et il faut se retaper à chaque fois toute la première partie. Et du coup, c'est assez pénible, surtout si on n'y arrive pas. Et en plus, on va dire, c'est une logique qui est un petit peu alambiquée, quoi. Il faut vraiment trouver, comme dans un point and click classique, quand je dis classique, ça veut dire des anciens temps, la bonne solution, mettre le truc au bon endroit, au bon moment. Et du coup, si on ne le fait pas, on se retape tout le début à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois. Et c'est vraiment c'est un petit peu pénible. En plus, c'est un développeur, c'est son premier jeu, il faut être indulgent. Il réussit énormément de choses au niveau de l'intention, c'est clair. Mais les animations, par exemple, c'est encore à l'ancienne. Quand on veut s'asseoir, c'est « Ok, je clique sur la table, il s'approche de la chaise ». Il tire la chaise, il se positionne devant la chaise, il s'assoit sur la chaise, il retire la chaise devant la table et il commence à manger. Et une fois, ça va. Mais quand c'est la 10e fois que tu refais la même scène pour essayer un truc différent à la 8e minute, ça devient un petit peu frustrant, quoi.
Ouais, l'animation, ça a été comparé beaucoup aux Sims, d'ailleurs.
Un peu,
ouais, complètement, ouais.
Mais en même temps, il y a des gens qui ont adoré le jeu et je comprends tout à fait qu'il y a d'immenses qualités. C'est assez polarisant peut-être en fonction de l'expérience qu'on a eue, si on a réussi ou pas, mais il est quand même bien du coup. J'ai l'impression que tu l'as aimé en lisant ton test, que tu lui as trouvé des qualités. Qu'est-ce que tu en as pensé au-delà des défauts ?
Bah ouais, parce que je lui ai mis 14, c'est quand même une ambiance. On sent que le développeur est super inspiré. Déjà, t'arrives sur un tapis, c'est le même que celui de Shining. T'as vraiment une ambiance thriller dans laquelle t'as envie de rentrer. Puis t'as envie de voir la fin, quoi. T'as envie d'arriver jusqu'à la conclusion, qui est d'ailleurs, à l'image du jeu, assez clivante. J'ai vu des articles disant que c'était parfois la pire fin du jeu, que c'était la pire fin au monde. Il y en a d'autres qui ont adoré, mais ça frappe fort, quoi. Et jusqu'au dénouement, t'as envie de continuer et t'es quand même pris dedans, quoi. C'est assez captivant, quand même.
Ouais.
Ouais, c'est... Du coup, Trinity, t'y as joué aussi, toi ? Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Oui, je l'ai fini. Alors moi, je suis une amoureuse transie sur ce jeu, c'est-à-dire que je l'attendais énormément, comme beaucoup de gens. Je suis très friande de ce genre de concept où mes choix ont un impact, où il y a une espèce de vibes, l'effet papillon un petit peu dedans. Donc, j'ai passé 3 heures, on va dire, les 2-3 premières heures, mais alors génialissime, à essayer des choses, à voir effectivement les possibilités, etc. Puis est arrivé un moment de blocage ultime, une broutille qui a commencé à me rendre un peu dingue. Ensuite, ça s'est débloqué, j'ai réussi à avancer, etc. Et c'est ce que tu expliquais, c'est que vraiment, si à un moment tu n'es pas dans la logique du jeu, ça peut devenir extrêmement frustrant. Et puis, il y a une espèce de lenteur, même si on peut passer les dialogues, où en fait, t'as envie de passer plus vite pour pouvoir vite arriver au moment où tu dois refaire. Et ça devient extrêmement frustrant. Cependant, j'ai adoré, je ne spoilerai pas bien évidemment, mais moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré voilà, la fin, tout simplement. Et par contre, je trouvais pareil, la fin, sans, je ne spoil pas, attention, mais il y a vraiment eu des rebondissements géniaux. Et après, ça tire en longueur. Et en fait, c'était vraiment, je passais de moments où j'étais complètement dans le jeu, complètement aspirée comme dans un film, et des moments où je sortais complètement du jeu parce que j'étais trop frustrée et que ça tirait en longueur sur certains passages. Donc, c'est vraiment, pour moi, un peu mitigé, mais ça reste quand même extrêmement positif pour justement, tu disais, un de ses premiers jeux. Moi, je trouve que c'est excellent, ça annonce énormément de bonnes choses, et il faut pas oublier que bah oui, ça a divisé un petit peu les gens, mais parce qu'on est sur une recette extrêmement particulière et pour la moindre des choses qu'on puisse dire, qu'elle est originale, en fait, elle est très originale. Et moi, c'est ça qui m'a surtout impacté, quoi, qui m'a fait plaisir avec ce jeu, c'est d'avoir l'impression de jouer à autre chose, d'avoir un gameplay différent et d'avoir une proposition qui sort du lot et qui est quand même qui tient la route, en fait.
Ouais. C'est comme toujours chez Annapurna, ils ont des jeux qui sont différents, intéressants, intelligents. Et qui tiennent, quoi. C'est pas non plus malgré tous les défauts dont on parle. C'est marrant parce que on peut pas dire objectivement qu'il est très bon ni qu'il est très mauvais. Oui. Et c'est pas que c'est un jeu moyen. C'est que c'est un jeu qui a des aspects hyper intéressants et réussis et des aspects horripilants. Et c'est assez rare. C'est pas unique, hein, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare d'avoir ce genre d'expérience où c'est pas que le tout est bof ou le tout est sympa, mais il y a des montagnes et des vallées dans la qualité par certains aspects du jeu. Donc, ouais, je crois que c'est un jeu qui va marquer, mais je te donnerai peut-être le mot de la fin sur le jeu, Pauline, si tu peux nous dire ce que tu en as pensé au final, ou s'il y a des choses à ajouter qu'on n'aurait pas évoquées sur 12 minutes.
Eh ben, j'aurais pas dit mieux, franchement. Ouais, c'est vraiment un jeu qu'on va retenir pour son concept, je pense, qui était aussi stylé que risqué au final. Les boucles temporelles, c'est assez populaire hein, cette année. J'ai l'impression, on a eu ça, on a eu Forgotten City, on a eu des petites choses sympas. Mais oui, 12 minutes. C'est à faire. Dans tous les cas, c'est à faire, et je pense que c'est l'un des jeux les plus clivants, en tout cas, qu'on a eu ces derniers mois. Ça, c'est sûr.
Ouais, je crois qu'il va être ressorti à la fin de l'année dans les jeux dont on va parler. Peut-être que justement l'aspect clivant va faire qu'il ne sera pas dans les listes de GOTY des différentes publications ou
non,
personne.
Peut-être pas.
Mais ouais, c'est sans doute un jeu à faire. Moi, mon problème, c'est que j'ai peu de temps, et quand il faut repasser 5-6 minutes 10 fois pour avancer, c'est frustrant. Mais je verrai. Je vais peut-être pousser un peu parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est clairement dans la conversation. Donc, on verra. Écoutez, je vais vous parler ensuite de Ghost of Tsushima Director's Cut, qui est sorti la semaine dernière. Est-ce que vous y avez joué toutes les deux, ou c'est peut-être pas votre truc, Ghost of Tsushima?
Moi, personnellement, j'y ai joué à la sortie. Je l'ai pas fini, mais je trouve que c'est un jeu qui est magnifique et qui est hyper bien dirigé. J'aimerais bien le reprendre, on va dire.
Écoute, c'est l'occasion parfaite. Parce que le Director's Cut, en fait, il ajoute des petits trucs, on en a déjà parlé, mais c'est pas non plus la peine de passer tout l'épisode dessus. Il y a des trucs en plus, mais qui sont, je dirais, anecdotiques. Même les trucs de la PS5, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, la manette qui vibre. Bon, évidemment, le 60 FPS, ça plaira beaucoup à certains, ça c'est cool. Mais on y était déjà en résolution peut-être pas aussi poussée que ce qu'on a aujourd'hui avec la Director's Cut. Mais tout ça, même les manettes, les gâchettes adaptatives, c'est sympa, mais ça ne va pas vous changer votre expérience de jeu. D'autres seront peut-être d'un autre avis, mais moi, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Par contre, l'île d'Iki, qui est la nouvelle zone ajoutée à la version Director's Cut, je pensais que ça serait, c'est un peu plus de Ghost of Tsushima, et puis voilà. C'est évidemment ça, ça ne transforme pas le jeu. Mais par contre, c'est vraiment un ajout intéressant à l'histoire du jeu de base. C'est-à-dire qu'on va explorer une période de la vie de... en fait, il s'est passé des choses sur Liliki dans la vie de Jean, le héros. Et donc, ça ajoute narrativement de la profondeur au personnage, ce que j'attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, bah, on va aller sur la nouvelle île, on va prendre des camps mongols, libérer la ville, et ça va être la même chose que dans le premier. Et oui, c'est un peu ça, mais il y a du contenu narratif additionnel qui est vraiment, comme on dit en anglais, engaging, qui est prenant, et on a envie de continuer l'histoire, évidemment, si on a aimé le jeu de base. Je dirais que si le jeu ne vous a pas parlé à la base, bah, ce n'est pas ça qui va vous parler plus, mais au niveau du gameplay, on a des petits ajouts sympas, ou en tout cas des ennemis qui se comportent de manière différente, et une armure spéciale qui est assez cool. Je peux vous le spoiler, mais c'est pas vraiment un spoil. En fait, on a une armure qui permet plus de parer vraiment, qui n'autorise que les parades parfaites, qui renvoient l'arme de l'ennemi, ou le fait de faire la roulade parfaite, enfin d'éviter parfaitement, ce qui ralentit le temps. Et du coup, ça change un petit peu la manière de jouer, et je vous recommanderais d'aller la récupérer dès le début, si vous le pouvez. Donc il y a ces éléments-là, il y a des types d'ennemis différents, et avec en plus l'aspect narratif différent, ça donne une expérience. Alors je ne suis pas au bout, hein, mais ça dure environ 5, 6, 7 heures si on veut tout faire. Donc ce n'est pas super long, mais c'est une occasion de se relancer dans le jeu si on l'a apprécié, et c'est une occasion vraiment avec un supplément, ce que j'attendais pas. Donc j'ai été agréablement surpris de ce Ghost of Tsushima Director Cut, enfin en tout cas de la nouvelle zone de l'île d'Iki. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion évidemment de se lancer avec cette version Director's Cut. Il y a pas de raison de se priver si on peut se le permettre financièrement. Je crois que sur PS4 et sur PS5, c'est un jeu qu'on ne peut pas rater. Et je suis sûr qu'on en reparlera pour le mode Legends qui va avoir une update, je crois, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et le mode Legends, j'en ai dit énormément de bien et je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de gens qui le connaissent. Mais vu qu'il va sortir en standalone, peut-être qu'il y aura plus de gens qui se lanceront. Donc voilà pour Ghost of Tsushima. J'ai également, très rapidement là pour le coup, j'ai testé Tetris Beats sur Apple Arcade. Enfin, testé, c'est un bien grand mot, hein. Je l'ai lancé, j'y ai joué un petit peu. C'est un jeu de Tetris en rythme. Ce qui est un concept, pourquoi pas, moi j'ai trouvé ça original, sauf que j'ai pas vraiment trouvé la partie rythme très convaincante. C'est peut-être trop permissif ou trop, je sais pas, parce que j'ai juste pas compris. Enfin, ça me disait « Ah, super, t'as tapé en rythme !» Sauf que je tapais un peu n'importe comment. Donc, c'est sans doute parce que j'ai le rythme dans la peau. Mais l'idée d'un Tetris Beat, c'est intéressante. Et puis, c'est Apple Arcade. Donc, si vous êtes abonné à Apple Arcade, c'est le moment de vous lancer. Et il y a aussi, comme je le disais, Marvel Future Revolution, qui est sorti sur iOS et je crois Android, hein, qui est... pour le coup, vraiment surprenant. Je vais essayer, pour ceux qui suivent sur Twitch, de vous retrouver la vidéo. Les graphismes sont hyper surprenants et c'est de la qualité d'un jeu PS4. J'exagère peut-être un tout petit peu pour la qualité d'un jeu PS4, mais franchement, on n'en est pas loin. Et c'est un jeu d'action où on va jouer les différents personnages Marvel, un jeu d'action en vue troisième personne, un petit peu à la hack and slash. Et ça a l'air super bien foutu, le design est bon. Je vais continuer à y jouer, il faudra voir évidemment, comme là, ce n'est pas un jeu Apple Arcade, hein, c'est un jeu mobile classique, donc il faudra voir le système de monétisation. Mais pour quelqu'un qui aime bien Marvel, peut-être que ça sera plus convaincant que Marvel's Avengers sur, de Square Enix. Donc, mais en tout cas, rien qu'au niveau graphique, ça vaut le coup de tester parce que c'est vraiment impressionnant pour la qualité sur un mobile, quoi. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres jeux auxquels vous avez joué ces dernières semaines que vous voudriez évoquer avec nous ? Peut-être, Pauline, je te laisse le micro. Est-ce qu'il y a d'autres jeux sympas ?
Oh là là, bah j'ai fini sur 12 minutes. Là, j'attends ce week-end pour démarrer Psychonauts 2, qui a l'air juste incroyable.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Psychonauts, de Psychonauts, la série ? Parce que moi, je n'ai pas du tout été... je ne connais pas vraiment la série Psychonauts, ça ne me parle pas graphiquement, mais je sais que c'est un petit peu un jeu culte. Et le 2 qui est disponible hein, maintenant, je crois, non ? Il vient de sortir.
Le 2 est disponible dans le Game Pass. C'est surtout ça qui me donne très envie parce que j'ai le Game Pass et du coup, je vais pouvoir en profiter. Alors moi, j'avais commencé le 1 que je vais devoir finir peut-être avant parce que je n'avais pas fini. Il y a eu un épisode VR aussi que je n'ai pas fait parce que la VR me donne le tournis tout simplement.
Mais alors, c'est quoi le principe du jeu ?
Alors, je suis pas non plus spécialiste, mais en gros, ça va être un personnage. Déjà, le chara-design est très particulier. C'est un monde très cartoonesque avec un personnage qui a des pouvoirs psychiques, si j'ai bien compris. Et ça va être grosso modo de la plateforme 3D et des puzzles avec quelque chose de très old school, de ce que j'ai compris en lisant le test la dernière fois. Et alors, si
mais il y a cet aspect psychique qui est important parce qu'on rentre dans l'esprit des gens.
C'est ça.
Ouais, d'accord. Et donc, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les niveaux sont la psyché des personnages dont on va, contre lesquels on est en train
c'est
de
un
se...
Peu barré, ouais. C'est un peu dans cette veine-là. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les deux premiers, hein, d'ailleurs, pour faire cet épisode-là, parce que j'ai lu qu'il y avait un petit rappel au début. Je vais quand même les faire parce qu'on m'a dit qu'il y avait des clins d'œil quand même. Mais ça a l'air léger, quoi. C'est drôle. Il y a des doublages sympas. Les personnages sont incroyables.
D'accord. Donc Psychonauts 2, c'est l'une des sorties dont on parle ces semaines-ci. Il y a aussi Humankind, évidemment, qui est vraiment un Civ-like presque. Je crois que la seule différence avec Civ, c'est qu'on peut changer de civilisation entre chaque étape de développement de la civilisation. Mais de tout ce que j'en ai entendu, c'est vraiment Civ. C'est un Civ-like pur jus. Donc on commence à l'ère, dans la préhistoire, et puis on continue jusqu'à la conquête de l'espace. Mais donc il y a ça aussi, donc Psychonauts, Humankind.
Je suis pas adepte du genre Humankind, mais on m'a dit que c'était très accessible pour les néophytes, donc c'est quelque chose qui me donne très envie.
Ouais. Alors écoute, ça me parle un petit peu parce que j'avais testé la démo ou la bêta à l'époque de Humankind. Ouais. Et par contre, moi, je n'avais pas vraiment trouvé ça accessible. Donc, je me demande si c'est pas les fans de Civ qui disent oh, « bah, ça va, c'est facile quand même, Humankind », et que pour ceux qui connaissent pas du tout. Mais bon, peut-être qu'il faudra tester. Et là encore, il est dans le Game Pass, je crois. Je suis en train de dire une bêtise.
Il me semble... Ah, j'ai un doute maintenant.
C'est PC et Game Pass, si je ne m'abuse, Humankind. Trinity, est-ce qu'il y a des jeux que tu as eu le temps de faire malgré tes déplacements ou ça a été limité ?
Ouais, dis-nous. Oui, alors deux choses. Premièrement, dans les nouveautés qui sont sorties récemment, j'ai fait Road 96, qui est génialissime, un jeu de road trip généré de façon procédurale dans une espèce de dystopie plus ou moins proche de notre époque. Excellent jeu, hein, où on est sur la route, où on doit faire soit du stop, voler des voitures ou monter dans un bus, dans un taxi, et tout ça nous mène à des histoires différentes. C'est un excellent jeu. Mais français, si je ne m'abuse.
Ouais.
C'est un jeu qu'il faut, dans lequel il faut traverser, c'est l'Amérique ou...
Alors, en fait, c'est ce que j'allais y venir.
Oui,
c'est un... Non, t'inquiète pas, tu fais bien de poser la question parce que j'allais peut-être pas l'expliquer. En fait, c'est un état inventé qu'on peut un peu apparenter aux États-Unis. Et en gros, notre objectif est de rejoindre la frontière. Voilà. Je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir. Honnêtement, c'est une pépite musicale, graphique, scénaristiquement c'est génial, plein de possibilités qui font que les choses se passent différemment, et c'est surtout un jeu qui est voué à être refait parce qu'en fait on voit la progression des histoires avec les gens qu'on rencontre, et en fait on finit le jeu sans avoir rempli toutes les histoires, donc c'est vraiment voué à être refait pour pouvoir compléter le reste des histoires, etc. C'est une petite merveille pour moi, donc je vous le conseille, Road 96. Et en deuxième, alors là, pas du tout nouveauté.
Pardon, Je précise, parce qu'on m'a dit que ça serait bien de le préciser, c'est sur Steam, Switch et l'Epic Games Store, donc PC et Switch.
Oui, pardon.
Mais c'est moi. Et il est sorti il y a une dizaine de jours. Donc,
c'est ça, 10 jours exactement, parce que mon dernier live dessus était il y a 10 jours. Donc, c'est ça.
Très bien.
Donc, il est sorti il y a 10 jours. Si vous aimez les jeux avec un bon scénario. Et puis, en plus, il modifie certaines choses. C'est un peu comme dans Until Dawn. Au début, tu réponds à un petit questionnaire et le jeu va un petit peu s'adapter à toi en fonction de ce que tu as répondu, etc. Donc, c'est très intéressant. Et alors, dans la veine absolument pas récente, je débarque 10 ans après tout le monde, je me suis essayée à Stardew Valley.
Ah oui, d'accord. C'est pas Stardew Valley qui a eu un mode, un championnat de Stardew Valley avec 40 000 $ à la clé, un truc comme ça?
Alors ça, je sais pas du tout.
Oui, je crois que c'est Stardew Valley. Ouais. C'est un truc un peu loufoque qu'ils ont fait, mais oui, il est sorti il y a 6 ans.
Il y a 6 ans. Ouais, il y a 6 ans en fait. Ça faisait très longtemps qu'il me faisait de l'œil. Très longtemps, parce que moi, j'adore. Hein, à partir du moment où on doit avoir une ferme, gérer sa ferme, c'est un kiff. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, au cas où, c'est un jeu en pixel art où on doit en fait gérer notre ferme, tout mignon. Voilà, on plante des légumes. On a des poules, bref, c'est génial, on est dans un petit village. Enfin, moi, je surkiffe et vraiment, c'est cette petite parenthèse, cette petite bulle de paillettes dans ta vie où tu vas t'occuper de tes poules. Et j'ai découvert ça 6 ans plus tard et tout le monde m'a dit « tu vas tomber accro ». Et effectivement, je suis tombée accro. D'accord. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, au cas où vous l'auriez raté, n'hésitez pas à aller voir Stardew Valley.
Stardew Valley, effectivement. Et ça aussi, c'est un jeu qui a été fait par une personne. Dans le livre de Jason Schreier, le premier qui s'appelait Blood, Sweat and Pixels, du sang, de la sueur et des pixels, il raconte justement le développement de différents jeux, dont le développement de Stardew Valley. Et c'est incroyable, c'est un type qui a passé... 6 ou 7 ans de sa vie à développer ce jeu et c'est devenu une obsession complète. Et heureusement, sa compagne comprenait l'importance pour lui du truc et il a dû tout recommencer plusieurs fois. Il pensait que ça serait fini genre en 2 ans et puis encore un an et puis encore un an et puis encore un an. Et au final, c'est devenu un succès évidemment monumental qu'on connaît. Et donc, ça, le jeu en aura valu la chandelle. Mais l'histoire du développement de ce jeu est vraie. Mais il a tout fait dessus.
C'est
donc,
dingue.
Ouais, c'est assez impressionnant. Bref, Stardew Valley.
Stardew Valley, en retard, Trinity à l'ouest.
Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Franchement, je crois que personne ne peut te jeter la pierre. Hein.
C'est un peu le problème avec les jeux, il y en a un peu trop.
Et d'ailleurs, ça ne va pas s'améliorer. Il faudra qu'on fasse à un moment un aperçu de tout ce qui nous attend en 2022. Je crois que c'est marrant parce que on voyait, je vais en parler maintenant, on va commencer à parler des news, mais du coup je vais évoquer ça. Les tops des ventes de ces derniers mois montrent que les indés sont au top sur Steam, les indés vendent énormément. Et en fait, c'est pas surprenant parce qu'il y a eu tellement de décalage dans les équipes, dans les jeux qui sont gérés par des grosses équipes, les jeux AAA, qu'ils ont tous été repoussés à 2022. Donc, il n'y a que des indés. Et c'est presque une chance en même temps. Il y a des jeux qui sont sortis un petit peu de nulle part et qui font l'essentiel de l'actu des années où y aurait eu tous les autres gros morceaux qui auraient déjà commencé à sortir ou qui auraient occupé l'espace médiatique et qui auraient un petit peu occulté ces jeux-là. On pense à, je ne sais pas, au hasard, Death's Door, 12 Minutes, c'est ce genre de trucs. Donc oui, les indés, c'est un petit peu leur année. Mais l'année prochaine, ça va taper assez fort, je crois, avec tous les AAA. Bon, donc, les news. Destiny 2 a présenté The Witch Queen, qui sera disponible le 22 février. Je ne vais pas vous embêter avec Destiny 2, parce que je sais que c'est un jeu c'est un jeu service, donc tout le monde n'est pas forcément fan. Mais ça a l'air assez enthousiasmant. Si vous êtes fan de Destiny, la communauté est plutôt positive sur ce truc. Je vais pas vous détailler Destiny 2. Si vous voulez plus de Destiny 2, vous pouvez me dire sur Twitter que si, Patrick, vas-y, parle-nous de Destiny 2, on adore. On a aussi eu la présentation de Call of Duty Vanguard, comme j'en parlais tout à l'heure avec un extrait de gameplay dans le Opening Night Live de la Gamescom. Alors, comme on s'en doutait, on a les quatre fronts dont on parlait avec les rumeurs la semaine dernière, avec c'est l'Amérique, l'Allemagne, le Pacifique et le front russe, si je ne m'abuse. Et bon, bah, comme toujours, hein, c'est du gros spectacle, du triple A, avec une valeur de production énorme. Et y avait un truc, je me posais la question, je me demandais comment est-ce que je vais parler de ça en incluant, enfin sans oublier, on va dire, les problèmes de harcèlement dont est accusé Activision Blizzard. Et ils ont été sympas chez Activision parce qu'ils m'ont fourni l'excuse toute trouvée, parce qu'ils ont en fait, dans le trailer, présenté le jeu, non pas comme Activision Blizzard, mais comme Call of Duty présente Call of Duty Vanguard. Et en fait, il y a une sorte de marque Call of Duty maintenant qu'ils essayent de créer, et on ne voit Activision ou Activision Blizzard nulle part dans le trailer. Idem pour la présentation l'Opening Night Live. Donc c'était peut-être prévu avant les problèmes, mais c'est marrant quand même de le noter, et puis de noter aussi que Call of Duty est tellement énorme et représente tellement l'intégralité de l'activité, voilà, c'est Call of Duty Presents, Call of Duty Vanguard, et représente tellement toute l'activité de Activision. Ils ont confirmé il y a quelque temps que tous les studios d'Activision travaillent sur Call of Duty. Tous les studios, il y en a genre, je ne sais pas, 5 différents, ils travaillent tous sur Call of Duty. Et c'est devenu une machine monstrueuse. Ils sont en train de développer un jeu mobile à eux. Il y en avait un qui avait été développé par Tencent, qui fonctionne très très bien, mais il y en a un à eux qui est en train d'être développé. Il y a Warzone, évidemment. Il y a le Call of Duty annuel, etc., etc. Il y aura un mode zombie aussi dedans. Donc, bon, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas dit Activision Blizzard, mais c'est marrant, vu les problèmes dont ils sont accusés. Et puis, en plus de ça, le département de la justice de Californie a modifié sa plainte contre Activision Blizzard en ajoutant dans les employés, en fait, les travailleurs temporaires qui ne sont pas employés en propre d'Activision, qui sont également victimes de ces problèmes. Et ils ont accusé Activision d'avoir ils ont détruit des documents qu'ils auraient dû conserver qui sont relatifs à ces complaintes. Et en plus de ça, la firme d'avocats qu'ils ont employée pour gérer la chose est hostile aux employés, et c'est inclus maintenant dans la plainte du département de la justice californien. Donc, voilà, ça m'a donné l'occasion, en parlant d'actu, de ne pas oublier cette histoire. Donc, bon, ceci dit, Call of Duty Vanguard a l'air d'être un super beau Call of Duty. Voilà, je le dis comme ça. Écoutez, on va continuer avec d'autres sujets. La QuakeCon a eu lieu également, et Quake Remaster est sorti. Il est disponible avec... c'est du 4K 60 FPS, c'est en multi cross-plateforme, etc., disponible sur toutes les plateformes. Donc, si vous vouliez jouer à Quake dans les meilleures conditions, la QuakeCon a bien porté son nom. Elle est effectivement essentiellement sur Quake. Bon, est-ce que ça préfigure d'un remake de Quake un petit peu plus moderne, comme on l'a vu, comme on le disait la semaine dernière, avec d'autres jeux comme Wolfenstein ou Doom, peut-être, ça serait sympa. C'était marrant parce qu'il y a eu un commentaire qui a beaucoup fait le tour du net, quelqu'un qui était clairement d'une nouvelle génération, qui a testé le jeu et qui demandait « mais comment je fais pour viser, tu sais, pour aim down sights qui demandait sur Steam ?» C'était drôle, ça m'a fait rire. C'était mignon. Comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu taquin parfois. C'était
mimi.
Et ils ont aussi annoncé une nouvelle version de, devinez, un jeu qu'ils ont sorti sur toutes les plateformes du monde, Skyrim. Pour les 10 ans de Skyrim, il y a un nouveau Skyrim qui arrive où on peut jouer, on peut faire de la pêche. Oui, tu peux pêcher maintenant.
Ah mais, oh là là. Mais ça a été, il faudrait compter le nombre de fois que ça a été refait, réédité. Et Skyrim, c'est un truc de dingue quand même.
C'est un sketch.
Hein. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un truc de fou. Hein.
Écoutez, tant que ça se vend, hein, ils auraient tort de se priver.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et puis le jeu est bon, hein, mais c'est vrai que là, ça commence à faire. Hein.
C'est clair. Alors, on a déjà parlé de Psychonauts 2, de Humankind, de Sword of Symphony. Je vais mentionner sur le Discord de la communauté, dont le lien est disponible sur, notepatrick.com, évidemment, vous pouvez vous joindre à nous. Il y a Nunchak qui m'a signalé avec justesse que l'histoire dont on parlait la semaine dernière sur, vous savez, avec Hades qui est sorti, on pouvait traquer le nombre de personnes qui ont caressé le chien dans Hades grâce aux achievements. Et sur Xbox, il y en avait beaucoup moins que sur PlayStation. Alors, c'était genre 4% contre 12%. Et on se disait, mais est-ce que les fans de Xbox... les joueurs Xbox seraient seraient moins attendris par les chiens que les fans de PlayStation. Est-ce que les fans de PlayStation auraient un cœur d'or ? Et en fait, non, c'était un problème sur les achievements eux-mêmes. Tous n'étaient pas activés dans Hades. Donc voilà, la vérité est rétablie. Tous les fans de Hades aiment les chiens. Nous sommes bien contents. On a aussi une date de sortie pour King of Fighters 15, le 17 février 2022. Il faudrait que je fasse une analyse du trailer d'annonce de la date de sortie de King of Fighters 15. C'est tellement japonais, on n'a pas d'argent. C'est fou, les voix, la manière dont c'est présenté. C'est attendrissant presque parce que c'est plus une grosse boîte, SNK. Mais c'est vraiment, voir le trailer, ça me fait penser, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent pour la communication. C'est mignon, quoi. D'autres petites news, donc, on a eu une vidéo de 12 minutes de Black Myth Wukong. C'est ce jeu, pas japonais, mais chinois, qui avait fait beaucoup de bruit l'été dernier parce qu'on avait vu un petit extrait et il était incroyablement beau. Alors, ça a l'air d'être un petit peu, un mélange entre un open world et certaines mécaniques Dark Soulsiennes. On ne sait pas très, très bien parce qu'on on connaît pas beaucoup le jeu. Hein. On n'a vu que des extraits de gameplay de ce type-là qui ne rentre pas dans les détails de tout ça. Mais c'est toujours aussi beau. Je suis par contre un petit peu... on en sait tellement peu que j'ai du mal à me faire une idée. C'est beau, mais ça pourrait tout aussi bien être une démo de l'Unreal Engine 5, en fait. Ouais. C'est ton avis aussi, Pauline ?
J'ai pensé pareil, ouais. J'ai trouvé encore que dans les premiers trailers, les décors, ils avaient un peu plus de cachet encore. On voyait des temples, il y avait une personnalité, alors que là, c'est des montagnes partout. C'est bluffant, hein, c'est beau, mais je sais pas, je sais pas trop encore ce que ça veut raconter.
Ouais, c'est difficile, hein, évidemment, parce que c'est juste, en fait, on dit 12 minutes, c'est vraiment 12 minutes de gameplay, et sans contexte, c'est pas construit d'une manière qui va vous montrer la manière dont le jeu est conçu, quoi, la manière, ce qu'on fait finalement dans le jeu, au-delà de se balader dans des décors très beaux. Et puis j'ai l'impression que de la même manière qu'il y a une esthétique Unreal Engine 4, là on est en train de découvrir l'esthétique Unreal Engine 5 qui peut-être et va être commune à ce type de jeu. C'est plein de détails, c'est très précis, mais bon... Je sais pas pourquoi je suis moins enthousiasmé par cette séquence de gameplay que par la première qui était moins léchée en fait. Mais bon, bref, voilà pour Black Myth Wukong. Et alors là, vous allez rire, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas de quoi. Astérix et Obélix arrivent le 25 novembre. Et je crois qu'il est de bon ton de rire de ce genre de jeu parce qu'ils n'ont pas forcément été très bien traités mais Microïds a récupéré la licence et ils sortent un jeu qui a l'air d'être un petit jeu, c'est un beat'em up, c'est un petit peu Streets of Rage avec Astérix et Obélix, qui a l'air pas trop mal foutu, franchement, très respectueux de la 2D, de l'esprit graphique des BD. Et, évidemment, ce n'est pas pour tous les joueurs, mais je trouve que ça a l'air d'être une bonne adaptation, avec le budget sans doute qu'ils ont, qui n'est pas infini, d'Astérix et Obélix, dans l'esprit du truc. Donc, moi, j'ai trouvé ça plutôt convaincant au niveau... pour ce que c'est, quoi. Donc je voulais le mentionner.
Ouais, pareil. Et côté adaptation de BD, j'ai l'impression que Microïds, ils préparent des trucs assez sympas. Il y a aussi les Schtroumpfs qui vont faire l'objet d'adaptation JV. Ça a l'air joli, franchement. J'attends ça.
Ouais, moi j'ai l'impression, j'en parlais la dernière fois, j'ai l'impression que Microïds a récupéré des licences faciles qui étaient peut-être pas très chères, qu'ils adaptent avec des budgets raisonnables et qu'ils sont peut-être, j'espère, en train de construire un trésor de guerre avec ces licences. Donc, faciles qui se vendront pas trop mal. Peut-être que les grands-parents se souviendront des Schtroumpfs et de Astérix et Obélix et qu'ils achèteront au Leclerc du coin le jeu pour leur petit-fils qui a 12 ans et qui est déjà sur Fortnite. Mais c'est, peut-être que ça se vendra suffisamment bien pour qu'ils attaquent des projets plus ambitieux à terme. C'est peut-être leur stratégie, j'en sais rien, mais si c'est le cas, ça me semble être cohérent.
Et ils ont le prochain Siberia aussi. Donc, petit catalogue sympa à venir.
Ouais. Microïds, pourtant, ils sont là depuis longtemps. J'imagine que ça a été acheté et revendu plusieurs fois. Je ne sais même pas, mais c'est ils ont l'air d'avoir une stratégie, en tout cas. Justement, dans le niveau stratégique de Microïds, ils ont aussi... annoncé... Bon, là, on va dire... ils ont aussi annoncé le jeu Koh-Lanta. Pour octobre, le 14 octobre, c'est ça.
Attends, mais ok. Non, mais d'accord.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Mais ok. Non, mais en fait, ce qui m'étonne plus, c'est le fait que Koh-Lanta, qui est quelque chose quand même d'assez énorme, avec, je pense, beaucoup d'argent derrière, face à un jeu qui a l'air plutôt d'être un jeu de petit studio. C'est plus ça en fait le... mais en même temps les adaptations de jeux télévisés, j'ai envie de dire ils vont pas demander à EA quoi, donc ouais. Ok, mais pourquoi pas, il y a des gens qui aiment bien, hein, je pense que
exactement, enfin, c'est le genre de truc que tu développes, bon ça te coûte pas les yeux de la tête et puis tu le sors et ça te fait un petit peu d'argent, ça fait de l'argent pour tout le monde, pourquoi pas. Moi perso je suis pas très télé-réalité à part Terrace House évidemment sur Netflix, dont j'espère qu'il reviendra un jour, mais c'est le genre de truc, encore une fois moi ça me donne de l'espoir pour Microïds plus que pour Koh-Lanta lui-même dont on souhaite.
Oui c'est ça,
bah oui
c'est ça.
Et voilà, on va
Koh-Lanta,
finir avec...
alors petite précision, Koh-Lanta qui vient d'arriver sur Twitch, hein.
Ah oui,
hein. Messieurs, dames, avant-hier, je ne sais plus, je connais Jules, qui est animateur sur le stream, TF1 qui est arrivé, qui a fait une chaîne Twitch et qui a lancé une émission de débrief Koh-Lanta sur Twitch il y a deux jours là.
Bah, tu vois, ils sont modernes, jeux vidéo, Twitch.
Ah bah là, ouais, ils s'adaptent, hein, ils s'adaptent.
Quelques chiffres, on a parlé des indés sur Steam, parlons un petit peu d'Epic, ils ont... annoncer le nombre d'utilisateurs mensuels. Je trouve toujours ça intéressant de jeter un petit coup d'œil à ce genre de chiffres parce que ça nous donne une idée de l'ampleur des choses, même si c'est des chiffres qu'on a du mal à conceptualiser. L'Epic Game Store a 58 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 58 millions, ils en avaient en 2019 32 millions. Donc, on voit que la dynamique est là, même si à la fin de l'année dernière, ils en avaient 56 millions. Donc, on a un ralentissement clair, alors que Valve avait en 2020, les derniers chiffres qu'on a, c'est 120 millions d'utilisateurs actifs mensuels au maximum. Donc, on voit la proportion de Epic par rapport à Valve. Ils sont loin derrière, mais ils sont à peu près à la moitié. Mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont lancés il y a 3 ans. Donc, c'est une dynamique dont j'imagine qu'ils ne veulent pas qu'elle se ralentisse. J'ai l'impression que la nouveauté de l'Epic Game Store est un petit peu en train de disparaître quand même, donc les jeux gratuits qu'ils filent tout le temps ne suffisent peut-être plus à ramener du nouveau monde, peut-être qu'ils vont devoir penser à de nouvelles stratégies. Et à propos de l'industrie, Dr. Disrespect, qui s'est fait bannir de Twitch il y a un an à peu près et qui est allé sur YouTube pour streamer quelques mois après, alors, on ne savait pas pourquoi il avait été banni, on ne sait toujours pas. Mais maintenant, lui dit qu'il le sait et qu'il est en train de faire un procès à Twitch. Et que donc, j'imagine qu'il ne peut pas en parler parce qu'il y a le procès qui est en cours. Mais je serais très curieux de savoir pourquoi il a été banni.
C'est hyper drôle que t'en parles parce que j'ai pensé à lui il y a une semaine, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais attends, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mmh. C'était quand même l'un des plus gros streamers de la plateforme, celui qui cartonnait le plus. Autrement dit, aussi une très grosse source d'argent pour Twitch. C'est vrai que tout le monde était intrigué et on ne savait pas. Donc moi j'ai envie de savoir. Je suis comme toi là. Là ça ouais. y est, je veux tout savoir.
on sort gala, voici, on veut tous les détails croustillants, tu sais. Sean Bean, pourquoi a-t-il été banni Guy Bean, pardon. Pourquoi a-t-il été banni de Twitch? Bah, on saura ouais, sans doute, hein, parce que si le procès est en cours, oui. J'imagine que ça sera oui. des documents publics. Et autre détail intéressant. Il a mentionné qu'il gagnait 4 fois moins d'argent sur YouTube qu'il ne gagnait sur Twitch. Et ça souligne un petit peu la difficulté de changer de plateforme quand il y a une plateforme qui est aussi dominante dans le domaine du streaming. Parce que même YouTube, avec son énorme poids dans la vidéo et dans la vidéo de jeux vidéo en particulier, ben le streaming, c'est quand même Twitch qui a la main dessus. Même ouais. pour une personne aussi populaire que les gens vont suivre, comme Guy Beam, Dr. Disrespect, dont c'était notable aussi. Bon, ceci dit, on n'a pas les détails sur la manière dont il fait son argent sur l'une et sur l'autre des plateformes, donc on ne sait pas exactement. Ça ne veut peut-être pas dire que son audience a été divisée par 4, on ne sait pas, mais ses revenus ont été divisés.
Ouais, ouais, ses revenus ont été divisés. Après, je pense que son audience a quand même pris un coup.
C'est sûr.
Mais c'est surtout que l'engagement n'est pas aussi fort, en fait, sur YouTube, dans tout ce qui concerne les abonnements. Ça marche pas tout à fait de la même façon, donc je pense que c'est pour ça qu'il a perdu, et surtout il a quand même aussi moins d'audience. Il y a des gens, s'il y a un switch qui se fait, si à un moment on doit changer de plateforme, il y a forcément des gens qui ne suivent pas. Tu peux communiquer, mais si les gens, à partir du moment où il y a un clic de plus en marketing, c'est hyper important. Ça peut tout ouais. changer, le fait de juste devoir cliquer ailleurs et de changer, donc forcément
ouais,
ça a été impacté.
Chaque clic oui. est une décision active que doit faire la personne qui va cliquer.
Exactement.
Bien sûr, on sait bien.
Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi. Bon, après, je pense qu'il marche quand même très, très bien. Il oui. est très connu, il a sa personnalité. Et puis, je pense qu'il gagne quand même très bien sa vie. Hein.
C'est ça. Je pense qu'il n'a pas à se plaindre malgré les clics supplémentaires nécessaires.
Ouais.
Enfin, pas à se plaindre.
Mais c'est bien qu'il en parle. Effectivement, c'est quand même important. Sûr. C'est bien. Ça permet de se faire aussi une vision, en fait, de tout ça et de se dire « Ah, ok, bah, le mec gagne 4 fois moins. » quoi.
Pourquoi tu crois que je demande aux auditeurs d'aller sur patreon.com/rdvj juste pour regarder, tu sais ? Allez-y, regardez, c'est un clic de moins à faire pour devenir patriote. C'est pour ça, patreon.com/rdvj. Et puis, on va finir avec 3 articles hyper intéressants, articles ou vidéos hyper, hyper intéressants que je mettrai dans la newsletter pour le coup, qui sont à la frontière entre la tech et le jeu vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par ces articles, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Y a un lien pour s'inscrire sur la newsletter. Le premier, c'est justement, toujours en parlant de Twitch, c'est... Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son prénom. Jerma, c'est ça. Enfin, son prénom, son pseudo. Jerma, qui a fait un week-end un petit peu où il jouait un Sims... Et l'audience sur Twitch lui disait ce qu'il fallait faire. Et c'est marrant parce que quand on en parle comme ça, je crois qu'il est assez facile de se dire « Oh mon Dieu, ça y est, les extrêmes de Twitch, les gens n'ont plus de vie, ils se mettent à la merci de leurs viewers, c'est de la réalité TV du pire niveau. » Et en fait, je vous encourage à aller voir l'article et voir les vidéos. C'est pas du tout ça, en fait. C'est un type qui a déjà un certain following sur Twitch, et qui a fait une sorte de pièce de théâtre interactive avec des décors. Il y avait genre 2-3 pièces. Et c'est de l'improvisation. Et il y a les petites barres, vraiment comme dans les Sims, hein, hygiène, faim, amour, etc. Et qui changent en fonction de ce qui se passe dans le, entre guillemets, jeu. Mais c'est une performance artistique. Donc, on est très loin de cette idée. Oh, les gens font n'importe quoi. C'est très impressionnant, en fait, j'ai trouvé.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, je n'en avais pas entendu parler. Pourtant, je suis sur Twitch. Je trouve ça génial. Enfin, j'aime beaucoup l'idée. Bien évidemment que oui, effectivement, des gens d'un point de vue extérieur vont se dire c'est n'importe quoi. Mais une fois que t'es quand même dans le truc, tu t'aperçois bien que ça ressemble effectivement plus à une performance théâtrale. une performance tout court, mais c'est génial, mais j'adore, là je vois la vidéo sur ta chaîne, je trouve ça, mais je trouve ça trop fort en fait, tu vois, de mélanger les codes, parce que Twitch, on est quand même, c'est une plateforme à la base de jeux vidéo, et c'est une plateforme qui devient de plus en plus IRL, et il y a aussi cette espèce de démarche derrière finalement, tu vois, de mélanger ces deux choses, ton IRL, ta vie, tu partages ta vie, tu joues un Sims, enfin je trouve ça hyper, hyper réfléchi finalement derrière, et je suis assez curieuse, j'irai voir ça un peu tout à l'heure, là, un peu plus de vidéos.
Ouais, c'est pareil. Parce que j'avais lu que le titre et je m'étais dit c'est quoi cette connerie, et finalement là je vois les images et il y a une vraie mise en scène, j'ai envie d'aller voir maintenant.
C'est ça, hein. C'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que je pense vraiment que les gens qui voient le titre passer comme ça peuvent se faire une opinion sur la chose, alors que quand on investigue un petit peu plus loin, c'est une pièce de théâtre, quoi. Il y a des décors, de l'éclairage spécial, il y a personnes, enfin un petit peu comme le théâtre japonais, des personnes habillées tout en noir qui vont venir faire des choses, déplacer des choses, enfin bref, c'est vraiment vraiment intéressant. Bon, l'article sera dans la newsletter. Le truc dont je parlais tout à l'heure, l'investigation de People Make Games sur Roblox. Et comme je le disais, Roblox, c'est une plateforme de conception de jeux vidéo destinée aux enfants, vraiment, de jeux vidéo, ils appellent ça des expériences pour différentes raisons, mais on peut donc créer des jeux et puis vendre des choses dans le jeu, vendre les jeux. Et on connaît tous cette plateforme, mais jusqu'à l'enquête très, très approfondie de People Make Games, on ne savait pas exactement comment c'était monétisé. Et Roblox, c'est un petit peu à part du monde du jeu vidéo. Et l'enquête est assez édifiante parce qu'il montre à quel point les jeunes, qui sont parfois très jeunes, qui ont une dizaine d'années, qui se transforment en développeurs en quelque sorte, sont en réalité vraiment exploités par la plateforme de la pire manière, par toute une série de mécanismes, enfin c'est même pas des mécanismes très compliqués, mais il faut l'investiguer pour le comprendre. Par exemple, pour acheter des Robux, qui sont la monnaie dans laquelle tout se passe, ben un Robux, je dis n'importe quoi, mais au hasard, 1 euro, c'est 1000 Robux. Et quand on veut sortir les Robux, déjà, il faut en avoir un certain nombre, et quand on veut les sortir, Roblox vous rachète ça à 30% du prix. Donc, il vous paye 30 centimes pour les 1000 Robux. Rien que ça, déjà, c'est incroyablement manipulateur, mais enfin, c'est... Bref. Allez voir cette vidéo, elle dure une vingtaine de minutes et je pense que si vous vous intéressez à l'univers du jeu vidéo et si vous avez des enfants en particulier, ça pourra vraiment être utile pour vous. Le lien, encore une fois, sera dans les notes de la... sera dans la newsletter. Et enfin, dernier lien qui sera dans la newsletter, « Turns out the hardest part of making a game is everything ». En fait, la chose la plus difficile dans la conception d'un jeu vidéo, c'est tout. C'est un article passionnant, un petit peu long, hein, c'est même assez long comme article, mais c'est Rebecca Valentine qui a mené une enquête de plusieurs mois sur ce qui est parti d'un tweet d'un développeur qui disait en fait faire des portes dans le jeu vidéo, c'est hyper dur. Hein. Il expliquait pourquoi c'est hyper dur. Et vraiment, c'est très compliqué. Et il y a d'autres développeurs qui ont participé au thread, etc. Et du coup, ça lui a donné l'idée d'essayer de savoir quelle est la chose la plus difficile à faire dans le jeu vidéo. Elle a contacté plusieurs dizaines. Au final, elle a eu une centaine de réponses de développeurs. Et elle se rend compte que tout est hyper dur. Et dont nous, les joueurs, on ne s'en rend pas forcément compte. Et à quel point, parfois, les joueurs disent « Bon, bah, ça va, tu peux juste ajouter un truc, c'est bon, tu fais juste cette fonctionnalité, ça ne va pas te prendre longtemps. » Et à quel point, en réalité, c'est hyper difficile. C'était dans Absolver, d'ailleurs, le jeu de... je ne me souviens plus du nom du développeur, mais c'est ceux qui font Sifu. Les joueurs voulaient qu'ils ajoutent le fait de sauter. Et le développeur disait, mais vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas sauter dans mon jeu. Si je dois faire sauter le personnage, ça change tout. Ça ajoute des tonnes d'animations, ça veut dire qu'il faut que je vois où on peut sauter, où on ne peut pas sauter, la volumétrie des objets, les ennemis, comment ils vont réagir. Enfin, c'est refaire un jeu, quoi. Et plein de trucs comme ça, absolument passionnants, sur les challenges du développement de jeux vidéo qui sont partis du fait d'avoir une porte. Les volumes d'eau, même pas de l'eau qui coule, hein, mais les volumes d'eau, c'est hyper compliqué à gérer. Qu'est-ce que tu fais quand tu mets quelque chose dans l'eau, quand il faut se déplacer à une vitesse différente dans l'eau? Enfin, c'est vraiment compliqué. Il y a les développeurs de Control, Remedy, qui disaient « On a eu un problème, un bug monumental dont on n'arrivait pas à comprendre l'origine et on s'est rendu compte au bout de plusieurs mois, c'était un bug qui cassait le jeu, hein, on ne pouvait pas le sortir comme ça, on s'est rendu compte au bout d'un moment, c'était peut-être plusieurs semaines, que c'était dû à la sauvegarde qui sauvegardait le nom d'une zone avec, c'était, je ne sais plus quelle zone, mais il y avait un R devant, le premier nom de la, c'était « Research ». Et le R était majuscule au lieu d'être minuscule dans une sauvegarde. Ça cassait complètement le jeu. Bref, allez lire cet article si ça vous intéresse. C'est super, super passionnant. Et il sera, encore une fois, dans la newsletter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode bien rempli et fort sympathique que j'ai eu le plaisir de passer en votre compagnie, mesdames. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver si on veut encore plus de vos productions? On va commencer par notre invitée Pauline. Dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh bien, sur jv.com, tout simplement, voilà. Ou alors sur Twitter, bien sûr, Pauline Leclerc sans les voyelles, ce qui est très compliqué.
Tu sais quoi, on fera comme toujours, on mettra le lien Twitter dans les notes de l'émission, comme merci. Ça les gens y auront accès directement.
Parfait.
Donc Pauline Tiraxa Leclerc, merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir parlé de 12 minutes notamment.
Merci à toi.
Et donc, deuxième invitée prestigieuse, Priscilla, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh bah, bien, comme d'habitude, sur Twitch, Trinity, avec un Y à la fin. Et voilà, toute la semaine, et bientôt, en voyage en Turquie.
Et est-ce que tu vas streamer depuis tes vacances en Turquie?
Oui, oh, oui, c'est prévu. Incroyable. Je vais faire visiter Istanbul.
D'accord. Et donc, ouais. Tu ne vas pas streamer tous les jours, tu vas quand même te... Si?
Ah oui, non, quand même, n'abusons pas.
Non, mais je ne sais plus, parce que tu stream tout le temps.
Non, mais en fait, ouais, quand je pars, je réduis quand même le rythme.
Très bien. Super, donc Trinity sur Mythix Trinity sur Twitter, c'est ça? Et Trinity oui. Sur Twitch. Super, merci à toutes les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, vous savez tout ça. Et vous pouvez retrouver l'émission sur Twitch tous les jeudis à midi. Et si vous ne savez pas comment accéder à tous mes liens, c'est sur NotePatrick.com, c'est quand même super simple. Même si je suis NotePatrick partout, hein, y compris sur Twitch et sur les autres plateformes. Donc, vous pouvez me retrouver sur notepatrick.com et vous avez également sur notepatrick.com le lien vers, vous le voyez venir, le Patreon qui est juste dans la petite cartouche rendez-vous jeu, patreon.com/rdvjeu. Vous savez quoi, le lien est également dans les notes de l'émission. Donc, pour vous éviter d'avoir un clic en plus à faire, cliquez d'abord sur le lien de la description, puis comme ça, il n'en reste plus qu'un pour vous abonner. C'est une méthode extrêmement simple de devenir patriote de l'émission. Et vous savez que c'est un truc important, évidemment, pour l'émission, pour ma vie et peut-être pour vous, parce que vous découvrirez des choses incroyables comme une communauté merveilleuse qui améliorera votre quotidien. C'est possible, on ne sait jamais. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et je suis très reconnaissant de votre soutien. Merci à tous et à toutes. On se retrouve pour l'after show dans quelques minutes avec pour les Patriotes, justement. Et puis pour les autres, ça sera la semaine prochaine. Ciao, ciao.